Vous écoutez
RMC.
RMC Sport Show. Sport Show.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue, c'est le RMC Sport Show, c'est votre rendez-vous Omnisport sur RMC tous les dimanches soirs de 19h à 20h avec évidemment celle qui est toujours là tous les dimanches soirs, souvent en pleine forme, pas forcément aujourd'hui, Maryse Evangépé, membre de la Dream Team RMC Sport. Salut Maryse.
Bonsoir.
Bon, comment ça va Maryse alors?
Ben, oh, c'est rien, comme tout le monde hein, en ce moment. La voix de ma grand-mère, ou de mon grand-père plutôt même d'ailleurs.
Bon, tu as pu hurler sur le sacre de Nadal quand même?
Oui, quand même, à petite voix, mais oui, ou avec une voix d'homme, comme tu veux.
On va évidemment en reparler, c'est la une du RMC Sport Show, ce nouveau sacre historique pour Nadal à Roland-Garros, la 14e victoire pour l'Espagnol sur la terre battue parisienne. Il a balayé le jeune Casper Ruud en 3-7, il décroche un 22e titre du Grand Chelem. Maryse, on va revenir sur cet exploit avec une invitée exceptionnelle, Amélie Mauresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros. D'ailleurs, on fera avec elle le bilan de ce Roland-Garros 2022. À 19h30, la Minute Foot, veille de match pour l'équipe de France en Croatie, c'est la deuxième journée de Ligue des Nations, turnover attendu chez les Bleus, Mike Maignan sera titulaire dans les buts, on fera le point avec Jeannot Rességui. Et puis l'autre actualité de la soirée, c'est le rugby, la 26e et dernière journée du Top 14, 7 matchs à suivre en intégralité dès 21h05, tous les enjeux évidemment, 12 clubs ont de l'enjeu, 12 clubs sur 14, on fera là aussi le point avec nos correspondants. Et puis un autre invité à 19h45, un invité vélo, Pierre Roland, coureur cycliste de l'équipe BNB Hotel. Il sera avec nous au soir de la première étape du Critérium du Dauphiné. Il s'est emparé du maillot à poids de meilleur grimpeur. C'est parti pour le RMC Sport Show. Avec plusieurs directs, notamment en rugby, une rencontre importante, la finale de Pro D2 entre Mont-de-Marsan et l'Aviron Bayonnais. Les données sont assez simples, le vainqueur sera promu en top 14, le vaincu disputera le barrage d'accession. Salut Paul-Antoine Leclerc, où en est-on ?
Salut, on en est à la 52e minute et Montois qui viennent d'inscrire 3 nouveaux points, 20 à 13, toujours pour l'Aviron Bayonnais, les Bayonnais qui sont à 5 mètres de la ligne des Montois et qui ont une pénalité et qui vont sans doute avec un carton jaune à l'instant. Carton jaune adressé au numéro 10 Willy Duplessis. Donc les Montois vont jouer à 14 pendant 10 minutes.
Okay, c'est dur pour Mont-de-Marsan qui a dominé la saison régulière de Pro D2. On a également du foot avec la finale du barrage Jaune Europe de Coupe du Monde. C'est la mi-temps, le Pays de Galles mène 1-0 face à l'Ukraine. Et puis ensuite du handball avec la finale de la Ligue des Champions féminines à Budapest. On suit ce match avec Valentin Jamin, ce match qui oppose Björ à Kristjansson. Valentin.
Salut Benoît, salut à toutes et à tous. Et c'est Kristjansson, les Norvégiennes tenantes du titre, qui sont devant 21-17. Donc il y a quand même un bel écart de 4 buts face à Győr. Club hongrois, réduction de l'écart 21-18 maintenant. Mais Győr, voilà, on les voyait favorites. Et pour l'instant, elles sont menées 21-18 après 36 minutes de jeu par Kristjansson. On rappelle la belle 3ème place décrochée par Metz dans cette Ligue des Champions en battant Esbjerg tout à l'heure. 21-18 pour Győr.
On est supporter de Győr puisqu'il y a 3 françaises, Amandine Leno et Stéphane Zeminko, évidemment. Et Laura Glauser. Partie de cette équipe de Guillaume. 19h02 sur RMC, Rafa Nadal est éternel.
Casper Ruud passe la première. Retour très profond de Nadal et Casper Ruud qui insiste sur le coup droit de Nadal. C'est peut-être pas la meilleure solution. Il change, il joue son revers. Attention, Casper Ruud est en difficulté. Nadal a une balle d'attaque. Il monte.
Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette. Il n'en prend pas ses yeux. Rafa Nadal remporte cette finale haut la main, 6-3, 6-3, 6-0, une démonstration. Quel immense champion quand on repense à son attitude à Rome, on le croyait aux abois, perdu pour le tennis. Et finalement, eh bien, il est revenu à Paris, il enquille son 4e top 10 de la quinzaine. Rafa Nadal, quel immense champion, Rafael Nadal.
La une du RMC Sport Show.
Le 14e sacre à Roland-Garros pour la légende espagnole. 17 ans après le premier titre décroché en 2005, Rafa Nadal entre un peu plus dans l'histoire cet après-midi. 36 ans, seul joueur de toute l'histoire du tennis à remporter 22 titres du Grand Chelem, deux longueurs d'avance désormais sur ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer. Et finalement, plus que 2 titres du Grand Chelem de retard sur le record absolu détenu par une femme, Margaret Court. Évidemment, Maryse, on a suivi cette finale. On va la débriefer avec Eric Salio, qui est toujours en direct de Roland-Garros. Salut Eric.
Salut à tous.
Il rigole de ses blagues, j'ai l'impression.
Que... je rigole parce que malheureusement, je pense que je vais prendre un tac là.
Ah bah excellent. Tu vas prendre un tac par la directrice du tournoi qui est à tes côtés, Amélie Mauresmo. Bonsoir Amélie.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Non mais j'ai entendu la fin là du commentaire d'Eric. Ouais. Bon, mais je pense qu'il était un petit peu à court d'inspiration, hein, quand même, parce que 10 fois, 25 fois Rafa Nadal.
Je voulais le faire 14 fois, mais je pense que je n'avais pas le souffle.
Non, mais c'est ça, ça doit être ça. Ouais.
Ouais,
c'est,
bah, vous connaissez Eric, hein, vous n'êtes pas surprise, j'imagine.
C'est ça. C'était étonnant, quand même.
Amélie, on vous remercie d'être avec nous. Hein, on va dresser avec vous le bilan de ce Roland Garros 2022. Particulier pour vous, ce Roland Garros, parce que c'était la première fois que vous étiez à la direction du tournoi. Mais parlons de ce final en apothéose avec le 14e titre. Pour Rafa Nadal, émotion extraordinaire, ça ne pouvait pas mieux terminer, Amélie.
C'est fantastique, hein. Chaque année, on se dit on manque de superlatifs. Moi, c'était déjà fabuleux, fantastique, phénoménal au 9e, 10e, 12e, 13e, et puis on y est encore aujourd'hui. Donc, c'est un champion hors norme qui marque évidemment encore plus l'histoire de ce tournoi. Et selon moi, c'est une performance inégalable et peut-être la plus grande performance en sport de tous les temps. Enfin, selon moi, c'est juste énorme.
Ça veut dire que pour vous, déjà en tennis, c'est le plus grand exploit de l'histoire, remporter 14 fois le même tournoi, c'est plus fort qu'un grand chelem calendaire par exemple.
Bah, le même tournoi, oui, Roland Garros, meilleur des 5-7, la terre battue, l'aspect physique qui est évidemment présent dans tous les grands chelems, mais sur terre battue, on a l'impression que c'est encore plus que dans les autres. Et c'est vrai que lui, il nous épate, ce cours Philippe Châtrier, c'est vraiment sa maison. Il prend tout de suite ses repères et derrière, il est. Enfin, c'est très très compliqué. On voyait Novak Djokovic presque favori au début de la quinzaine. Et puis il a fait un match hallucinant face à lui en quart de finale pour derrière se diriger vers aujourd'hui, en tout cas relativement tranquillement. C'était pas le cas en demi-finale, hein, face à Zverev, mais en tout cas aujourd'hui il a survolé vraiment la finale.
Marie, tu es d'accord avec Amélie, pour toi c'est l'un, si ce n'est le plus grand exploit de l'histoire du sport?
Alors, je vais être impartiale parce que je viens d'un autre sport et je suis fan de sport olympique, mais je suis aussi fan de boxe où il y a d'immenses champions. Là, aujourd'hui, je fouille dans mes petites fiches, je remonte à mon époque et au-delà. Tu sais que je date de bien avant la guerre de 14. Et honnêtement, je vois pas de plus grand exploit. Il est phénoménal. Tout est phénoménal et je crois qu'il le devient encore plus par l'émotion qu'il transmet ces dernières années parce qu'on sent que lui-même commence à prendre la mesure de cette invincibilité qui est quand même fragile. Il est arrivé blessé, tout le monde disait que ça serait un miracle qu'il aille au bout. Il revenait tout juste de son problème au pied, dont il sait que ça l'accompagnera jusqu'à la fin de sa carrière. Il avait même parlé de retraite en plein milieu du tournoi de Roland-Garros. Il se projetait peut-être pas au-delà. Et puis finalement, comme chaque année, il ressuscite à Roland-Garros et c'est un combat de gladiateurs qu'il nous propose à chaque fois. Quoi.
Première fois qu'il a remporté Roland-Garros, c'était en 2005. Amélie avait fait demi-finale à Wimbledon, quart à l'US Open. Voilà. On est 17 ans plus tard, vous êtes directrice du tournoi aujourd'hui, Amélie. Et lui, il est toujours là.
Moi, je suis plus sur le court. Hein.
Alors, Amélie, on s'est posé la question depuis plusieurs jours. C'est lui d'ailleurs qui a lancé cette rumeur parce qu'il a parlé dans les différentes conférences de presse de ses derniers matchs à Roland. Il se demandait si c'était le dernier match, son dernier tournoi, s'il allait être présent l'année prochaine. Il s'est voulu rassurant en fin de match, en célébrant cette victoire, en disant qu'il allait tout faire pour continuer. Est-ce que vous le voyez continuer et revenir l'année prochaine à Roland-Garros?
Il va essayer vraiment de soigner son pied, hein. Il a quand même un problème assez sérieux au pied. Donc l'idée, c'est forcément de trouver une solution durable, en tout cas au-delà du court terme, plutôt à moyen terme, pour pouvoir essayer de continuer sa carrière avec dans une des conditions plus tenables, entre guillemets, hein, parce que je pense que ça le fait quand même énormément souffrir à l'heure actuelle.
J'ai une question pour Amélie, parce qu'on sait que lorsqu'elle a pris les rênes du tournoi, elle a dit je veux être proche des joueurs. C'était ça. C'était important pour elle. Alors, il a confié à France Télévisions sur le court, là, il y a environ une heure, que son moment le plus difficile, ça avait été son deuxième match contre Corentin Moutet. Il a raconté qu'il était arrivé à l'hôtel, il pouvait pratiquement plus marcher. Est-ce que vous étiez au courant de ça, ou est-ce que sa team a gardé le secret pour elle?
J'étais pas au courant de ça précisément, de son retour à l'hôtel. En revanche, oui, on savait que le pied c'était quand même un souci, que ça prenait des. On n'était pas serein, si vous voulez, par rapport à ça. Ce qui, au fil du tournoi, s'est quand même amélioré. J'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'on le voyait en dehors, hors cours, hors. hors match, le grand public, l'image qu'a Rafael Nadal du grand public, c'était plutôt en boitant qu'en trottinant.
Parce qu'il s'est fait infiltrer, ça concrètement on le sait.
Oui.
Vous avez été joueuse de haut niveau, vous avez déjà été infiltré. Il y a des effets secondaires qui peuvent être ravageurs.
Ce que j'ai toujours entendu, c'est que effectivement, c'est sur le long terme, moyen long terme, c'est quand même pas quelque chose qui est conseillé.
Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il a dit qu'il pensait déjà à la suite de sa vie d'homme et justement à ses futurs enfants, parce qu'il veut pouvoir jouer avec ses enfants sans avoir de douleur. On rappelle qu'il souffre du syndrome de Müller-Weiss, c'est l'os naviculaire du pied gauche, et ça le fait souffrir tous les jours. 19h09 sur RMC, vous écoutez le RMC Sport Show, on est en direct avec Amélie Mauresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros. On va donc dresser le bilan de cette quinzaine porte d'Auteuil, Amélie. Ça s'est terminé également par deux bonnes nouvelles ce week-end pour le clan tricolore. Mladenovic et Garcia qui ont été sacrés en double face à la paire américaine Goff-Pegula. J'imagine que ça vous a ravi, vous, l'ancien coach de Fed Cup.
Exactement, non, mais déjà c'était super de les voir de nouveau retenter l'aventure ensemble en double. Et puis effectivement de les voir aller au bout, ce cours central qui était quand même bien plein ce matin.
Est-ce que vous avez ouvert les tribunes?
Absolument.
Ah, oui. Très très bien.
Oui, mais on l'a fait régulièrement tout au long de la quinzaine pour essayer de contrer un petit peu ce problème un peu historique de remplissage ici à Roland-Garros. Donc on l'a fait très très régulièrement tout au long de la quinzaine. Et aussi ce matin, effectivement, ce midi, pour le double des filles. Et il y avait d'ailleurs une magnifique ambiance.
L'autre bonne nouvelle.
Et puis De Bruy aussi.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais, Gabriel De Bruy qui a été sacré chez les juniors, Amélie.
Exactement, ça aussi c'est bien. On a quand même régulièrement maintenant des joueuses, des joueurs qui sont sacrés chez les juniors. Et puis derrière, Jacques Mau a réussi à passer le premier tour ici avec une wildcard en senior dans la foulée. Donc on sait que la transition c'est jamais simple, mais voilà, il faut que ces jeunes-là puissent arriver à passer le cap des seniors, et c'est pas souvent très simple.
Marise.
Oui, ben c'est la même chose qu'en athlétisme. On a des champions en junior, des champions du monde en cadet, et c'est la densité qui fait que certains finissent par atteindre le haut niveau, parce qu'on sait qu'il y a toujours un passage très très compliqué, aussi bien sur la vie d'homme et de femme, que les études, que se projeter, que arriver à se voir sur le long terme. Mais c'est clair que c'est en ayant des résultats comme il y a eu là à Roland-Garros depuis quelques années, à savoir des juniors qui atteignent non seulement le tableau final mais qui gagnent, que qu'émergera la prochaine génération. C'est une évidence. Voilà, aujourd'hui on a quatre grands champions qui sont sur le départ, et puis il y a des jeunes qui arrivent, et plus il y aura cette densité, plus il y aura de jeunes qui poussent, et plus on...
Des petits soucis de connexion avec Maryse, mais on a compris ce qu'elle voulait dire, évidemment. Amélie, allons-y. Effectivement, le parcours a été plus compliqué dans les tableaux principaux pour les joueurs et joueuses français. Aucun joueur présent en deuxième semaine. Quand on est directrice du tournoi, c'est forcément une déception.
Alors, c'est une déception, parce que dans l'ensemble, on sait très bien que Roland-Garros, s'il y a un Français, une Française en deuxième semaine, il y a un engouement encore supérieur qui se crée, même si cette année, on n'a vraiment pas eu à se plaindre de la ferveur générale qu'on a sentie autour du tournoi. Mais effectivement, ça rajoute quelque chose, ça rajoute du piment, ça rajoute de l'adrénaline, ça rajoute des émotions. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'on était déçus, parce qu'en fait, les résultats qui ont précédé le début du tournoi ne nous amenaient pas forcément à se projeter en deuxième semaine avec un Français ou une Française. Je dirais même que les belles aventures, les belles histoires d'une Diane Paris, d'une Léolia Jean-Jean, même d'un Gilles Simon, qui a ressuscité là pour le tournoi de Roland-Garros, nous ont presque surpris dans le bon sens finalement. Donc voilà, mais c'est vrai que globalement sur une, si on se positionne dans la position de la France sur la scène internationale, évidemment on a envie que nos joueurs et nos joueuses se distinguent en seconde semaine.
Amélie, vous avez connu plusieurs vies dans le monde du tennis. Vous avez été une joueuse de très haut niveau, vous avez été coach d'Andy Murray, vous avez eu des responsabilités également au niveau de la Fed Cup. Vous découvrez ce rôle de directrice de tournoi de Roland-Garros. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous vous attendiez à ce type de mission? Est-ce que pour l'instant vous êtes dans votre élément, Amélie?
Ça me plaît des fois oui, des fois non. Non, mais je pense que c'est normal. Il y a plein de choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Je trouve qu'on a pu proposer vraiment des choses différentes cette année. On a pris des risques sur certaines décisions qu'on a vraiment qui ont montré de belles choses, et ce sont des risques assumés. Je pense aux interviews d'après match sur le court avec une nouvelle machine. Je pense aux cérémonies. Alors pour moi c'était pas un risque, mais les cérémonies de remise de trophées, j'ai hyper insisté là-dessus.
C'était un go
pays bulgare avant. Hein.
Ouais, mais voilà, c'était pour moi, l'émotion devait primer. Donc c'était la simplicité, il fallait retrouver le côté traditionnel, simple et émotion de ce moment-là. C'est les champions qui doivent être mis en avant à ce moment-là. Et pour moi, c'était juste évident. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc il y a plein de choses où j'ai pu impacter en amont, etc. Et puis moi, après, ce qui était intéressant, c'était de vivre vraiment les 3 semaines de tournoi. Et là, ça va à 15 000. Il y a des décisions, il y a des arbitrages à faire.
Eh oui.
Plein d'arbitrages à faire tous les jours sur des choses, vous n'avez même pas idée, qui concernent vraiment pas que le sportif et ce qu'on voit sur le court, mais ça m'a beaucoup intéressé. Après, il y a eu des passages difficiles sur cet arbitrage du quart de finale Djokovic-Nadal. Moi, c'est vrai que je suis pas très... je suis bien un peu dans mon coin et je suis pas forcément
presse anglaise agressive.
Ouais, presse anglaise, presse internationale, un peu difficile sur une maladresse et voilà. Donc c'était on and off. Il y avait un peu de tout, mais j'apprends aussi. Hein. Je pense que honnêtement, les équipes ont fait un boulot extraordinaire. Tout ce qui a été fait, et franchement, on l'assume complètement. Il y a des choses à peaufiner, à adapter, à améliorer, c'est certain, et heureusement. Mais globalement, c'est une très très belle édition 2022. Enfin, je sais pas ce que vous a raconté Eric et comment.
Oh, Eric, il raconte beaucoup de sottises, mais en général.
J'ai bien remarqué, mais.
Non, mais je vais juste recontextualiser pour ceux qui n'ont pas forcément bien suivi cette quinzaine à Roland-Garros. Vous parliez de cet événement marquant, le dilemme de programmation, deux diffuseurs, France Télévisions en gratuit et Amazon Prime en payant. Ce sont les sessions de nuit, les night sessions, les matchs de soir, évidemment. Vous avez eu à trancher au moment des quarts de finale entre ce match entre Alcaraz et Zverev et Djokovic et Nadal. Décision a été prise de mettre Djoko Nadal en session de nuit, mais en clair sur Amazon. Voilà, vous avez essayé de trouver la moins mauvaise solution, Amélie.
Voilà. Oui, c'est ça. Et encore une fois, on hérite. Moi, j'hérite de cette situation. Donc, dans ce contexte-là, on a évidemment envie qu'un maximum de personnes puissent voir ce match. En même temps, on a promis depuis des semaines et des mois que on l'a répété, moi la première, que l'affiche du jour c'était en soirée. Voilà, et c'était l'idée, c'était pas du tout d'arbitrer, de se dire on le met sur France Télé ou on le met sur une vidéo. C'était en aucun cas cet arbitrage-là. On a promis des choses et on essaye de respecter. Et le fait de pouvoir le mettre en accès gratuit sur Prime Vidéo, ça, voilà, du coup, ça a arrangé d'une certaine façon un peu tout le monde.
Et Amélie, vous avez eu une déclaration intéressante, et est-ce que c'est une piste pour la saison prochaine? Vous avez dit effectivement il y a eu des propos mal perçus par rapport aux sessions de nuit, à l'avantage des matchs masculins par rapport aux matchs féminins, mais vous avez dit ce qui serait bien pour l'année prochaine, ce serait d'avoir la possibilité de mettre 2 matchs le soir, finalement, un match masculin et un match féminin. Oui, est-ce que c'est une bonne piste? Est-ce qu'on peut arriver à ça l'année prochaine à Roland-Garros?
Je ne peux pas vous répondre maintenant parce qu'on va tout poser sur la table. Il y a le contrat dans ce format-là, il est encore valable en 2023. Donc voilà, on va tout poser sur la table. C'est une piste de réflexion. Est-ce que la piste de réflexion, c'est de garder un match unique? Est-ce que c'est d'avoir 2 matchs? Est-ce que c'est de commencer plus tôt? Essayer de garder 21h? Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est un peu trop tôt pour répondre à cette question. On va se poser tranquillement et puis on va voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut adapter.
Eric, tu as une question pour Amélie?
Non.
Non, moi je. Je tweete pas mal, peut-être trop, mais je trouve que. Elle a marqué son empreinte, cette édition, et je le dis ouvertement à l'antenne.
Alors, je précise que tu ne l'as pas dit seulement parce qu'Amélie est là, tu l'as tweeté il y a plusieurs
bien
jours.
Bien sûr, hein, non.
Oui, c'est vrai.
Les cérémonies, les années précédentes, c'était un goumi-boulga. Là, on est revenu, ça se rapproche de Wimbledon, tu as vécu ça, c'était juste parfait.
Ouais, c'est ma conception.
Exactement, on est d'accord là-dessus. Je trouve qu'il faudrait peut-être plus ouvrir les cours aux gens qui sont moins nantis, mais ça, c'est un véritable problème.
On a mis en place les annexes UP, et j'en ai parlé ce matin quand j'ai fait le bilan. C'était une vraie volonté de faire accéder les gens qui ont des billets pour les cours annexes sur le Philippe Châtrier. On a fait souvent ce qu'on appelle des lâchers de cours en fin de journée, c'est-à-dire un accès libre, vraiment, que ce soit sur le Lenglen ou sur le Châtrier. Mais lorsque il nous est arrivé, et il y a eu notamment en début de tournoi, le tableau final, des gens qui avaient des annexes up et qui ne voulaient plus bouger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça met le boxon dans le stade, que les gens ne veulent plus partir...
Ah, vous avez rencontré ce genre de problème?
Voilà,
ah,
exactement.
Oui. Donc, ça, vous ne l'avez pas dit, ça.
Je vous le dis à vous. Non, j'ai parlé d'incivilité ce matin lorsque j'ai fait le bilan. Et la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'on a eu affaire à des gens, pas une ou deux personnes hein, sur la quinzaine, à des gens qui sont là, qui veulent plus partir et le match est en cours. Et qu'est-ce que vous faites?
Ah bah là, oui, c'est dur de les déloger. Oui.
Donc à un moment donné, moi, je veux bien faire tout ce qu'on peut, tous ensemble. Mais malheureusement, les autres ont payé pour quelques personnes qui chaque matin, chaque journée, nous posaient des problèmes de ce point de vue-là. On essaye, mais les solutions sont pas si simples que ça à trouver.
Amélie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce message merci sur le direct studio qui vous est adressé, ECAPS, qui nous dit surtout, il faut féliciter Amélie Mauresmo pour le Joko Nadal en clair. Profitez-en, c'est un coup de génie juste phénoménal.
Ça fait du bien d'avoir quelques compliments là-dessus, parce que j'ai quand même pris cher.
Non, il y en a eu pas mal quand même.
Bon repos à vous, Amélie, merci, et puis on vous dit à bientôt sur RMC.
Merci.
Merci Amélie Mauresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros. 19h19.
Je profite juste qu'elle soit partie, parce que elle est une très grande modestie, pour aller dans le sens d'Eric. Je trouve qu'elle a mis la main de façon magistrale sur ce tournoi, avec beaucoup de calme, de sérénité, cette espèce de prestance qu'elle a au naturel. Je trouve qu'elle l'imprime sur ce tournoi. Et vraiment, je lui souhaite de rester longtemps à la tête de ce tournoi. Parce qu'une première fois, pour une première, elle a su se démêler de situations quand même très périlleuses, avec beaucoup de classe.
C'est vrai, un bel apprentissage pour elle. En tout cas, une édition réussie de Roland-Garros avec ce sacre de Raphaël Nadal, le 14e. On continue d'en parler dans un instant. Florent Serra va arriver, évidemment, il va se mettre aux côtés d'Eric Salio. On poursuit le débat autour du tennis. Un point sur le direct, justement, la finale de Pro D2 entre Mont-de-Marsan et Bayonne pour Antoine Leclerc.
Et il reste 15 minutes, un peu moins, 14 minutes même, et ça commence à sentir très bon sur la côte basque. L'aviron bayonnais qui mène 37-13 face à Mont-de-Marsan, qui a inscrit deux essais pendant que vous discutiez avec Amélie Mauresmo. Et donc voilà, on commence à chanter, à danser dans les tribunes côté bayonnais. 14 minutes à jouer, 37-13 pour l'aviron bayonnais.
Le foot également, ce barrage zone Europe entre le Pays de Galles et l'Ukraine. Le vainqueur ira à la Coupe du Monde de Qatar, Hamza Rahmani.
61 minutes de jeu, 1-0 toujours pour le Pays de Galles face à l'Ukraine. Deux grosses situations en ce début de seconde période, pas loin du 2-0 pour les Gallois, avec un contre fulgurant mené par Moore sur le côté gauche, le centre en retrait. Et Aaron Ramsey ouvre trop son pied, puis la réaction ukrainienne quelques instants plus tard. Le centre fort de Mykolenko, premier poteau de Tsigankov qui se jette, arrêt extraordinaire à bout portant de Wayne Hennessy, et le ballon qui va rebondir sur l'attaquant Yaremchuk, et le ballon qui va passer juste à côté. Grosse situation ukrainienne, 62 minutes de jeu, 1-0 pour le Pays de Galles face à l'Ukraine.
Et puis la finale de la Ligue des Champions de handball féminin à Budapest, Gyor contre Christiansen. Valentin Jamin,
il reste 8 minutes et c'est Christiansen qui est devant, 29-27 face à Gyor.
Et à tout de suite sur RMC pour la suite du RMC Sport Show. On analyse cette victoire historique de Rafa Nadal à Roland-Garros.
Sport Show.
Benoît Boutron. 19h23 sur RMC Sport Show avec Marie-Zéve en GP jusqu'à 20h. Dans moins de 10 minutes, on vous présente tous les enjeux de la soirée qui vous attend en top 14, la dernière journée de saison régulière. Il y a des enjeux à tous les étages pour les qualifications directes, pour les demi-finales, pour les barrages, ou encore la lutte pour le maintien. Marise, on continue de parler de Rafa Nadal, évidemment, et de ce 14e titre à Roland-Garros. Et on accueille Florent Serra, consultant RMC Sport également. Salut Flo.
Oui, rebonjour.
Flo, question toute simple pour démarrer. C'est le 14e pour Rafa Nadal, 14e titre à Roland-Garros. Est-ce que d'après toi, c'est le plus beau, celui de cette année ?
C'est pas le plus beau, mais alors c'est le plus dur.
Ouais, c'est le plus dur, d'accord.
Le plus beau, non, il y en a eu tellement, et je pense que le premier, lui, pour lui, c'est peut-être le plus beau. Mais là, dans la difficulté, Eric le disait, 4 top 10, c'est la première fois que ça y arrive, et puis surtout avec encore un niveau de jeu exceptionnel contre J. Aliassime, contre Djokovic, contre Zverev pendant 2-7, c'était quand même vraiment top, et puis c'est là où il avait peut-être fait le plus dur.
Est-ce que, alors 14e titre à Roland-Garros, mais surtout on le disait, 22e titre du Grand Chelem, il a deux longueurs d'avance désormais sur Roger Federer, dont l'avenir est incertain, on le reverra peut-être en fin d'année, mais il y a toujours un doute qui entoure le Suisse. Novak Djokovic, lui, est encore présent, il a d'ailleurs été très bon contre Nadal en quart de finale. Est-ce que finalement, Eric et Flo, le fait de décrocher ce titre à Roland, malgré la douleur au pied, ça peut relancer une certaine motivation, et pourquoi pas une certaine envie chez Rafa d'aller chercher le record détenu par Margaret Court, 24 titres du Grand Chelem, où vous pensez qu'il n'a pas du tout ça en tête?
Franchement, je pense qu'il est loin de tout ça. Il est loin de tout ça. Il a vécu une quinzaine terrible, parce que comme il l'a dit, il a dû passer beaucoup de temps avec le médecin. Et puis, il le répète souvent lors de ses interviews, il n'est pas jaloux si l'autre a une plus grande piscine ou si l'autre il a une pelouse qui est plus verte. Je crois qu'il s'en moque. Lui, il est à recherche de petits bonheurs comme ça. Et là, ce qu'il a vécu aujourd'hui, bah, c'est juste génial. Et voilà, maintenant, il est à 22. Vous voyez, ça se trouve, on sera à 22 partout à la fin de l'année parce que Djokovic peut très bien gagner Wimbledon et l'US Open. Donc, en revanche, je pense que il était très fier, m'a-t-on dit, d'avoir sa statue dans Roland de son vivant. Hein, alors qu'il n'était pas à la retraite, puisque on a eu l'occasion de discuter avec le président Gucci il y a peu de temps, et le président lui a reposé la question. Il dit, mais tu veux vraiment? Il dit, oui, j'y tiens à ce qu'on l'inaugure alors que je suis encore sur le court. Donc ça, ce sont des attentions qui le touchent. Maintenant, il n'est pas vraiment à la chasse au record. À l'instant, il entre en conférence de presse, il est applaudi, et ça, voilà, ça le fait sourire. Vous voyez, ce sont des petites choses de la vie. Et c'est Rafa Nadal, parce que ça reste un champion d'une simplicité incroyable.
Marie, ton avis sur cette question, est-ce que tu penses que ça va le pousser à continuer ou au contraire, il est juste dans la saveur de ce nouveau titre?
Alors, très clairement, son discours de fin de match, enfin de célébration, laissait entendre qu'il allait tout faire pour continuer. Mais de toute façon, les sportifs sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des jours où t'as tellement mal que tu dis non, moi je veux juste marcher normalement et je m'arrête et terminer. Et puis quand ça va un peu mieux, tu penses qu'à une chose, c'est gagné. C'est comme ça. Et c'est son ADN. Et je pense que tant qu'il n'aura pas un stop médical ferme et définitif, il essaiera de continuer.
Parlons de la suite, du coup, Eric et Flo. On n'a pas encore une info officielle, mais les médias espagnols annoncent qu'ils pourraient ne pas disputer Wimbledon, hein, le tournoi sur gazon londonien qui arrive rapidement. C'est le prochain Grand Chelem. Il y aura l'US Open à la fin du mois d'août. Comment vous voyez la suite de la saison pour Rafa Nadal? Est-ce qu'il va se préserver en attendant la tournée nord-américaine? Qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis?
Écoute, je te donnerai la réponse dans une dizaine de minutes, parce qu'il vient d'arriver en conférence de presse, donc les questions vont lui être posées. Comme il a l'habitude de répondre avec franchise, on en saura plus. Mais ce qu'il a indiqué tout à l'heure sur le plateau de France Télé, qui était approuvé sur le central, ils vont tenter un nouveau traitement la semaine prochaine, en principe. Donc, qui dit nouveau traitement, ça paraît compliqué de le voir au coup d'envoi de Wimbledon dans 3 semaines. Maintenant, moi, je suis pas assez spécialiste pour ça, mais je sais pas ce qu'il a en tête. Parce que n'oublions pas que sur Terre, c'est moins traumatisant que le dur, hein, même s'il a remporté l'Open d'Australie. Mais visiblement, l'Open d'Australie n'était pas encore en crise au niveau de son pied. La crise est arrivée peut-être à Rome, justement, le pic de douleur. Donc, je sais pas ce qu'il a en tête. Mais on en saura plus dans une dizaine de minutes. Mais là, je peux pas te répondre.
Écoute, je vous remercie, Florent Serra et Eric Salio. Je vous remercie également pour toute cette quinzaine. C'était passionnant à suivre avec vous. On remercie toute l'équipe RMC Sport. D'ailleurs, on pense à Ilya Grandjean, Anthony Reich, Léna Marjac, Amandine Hess. Vous nous avez fait vivre ça. C'était top pendant 15 jours. Donc, merci à vous tous.
On s'est régalé. Merci à vous.
Et reposez-vous bien, Eric et Florent. Et
oui, parce que Wim, c'est bientôt.
Exactement.
Votre rendez-vous tennis avec Prime Video, diffuseur officiel de Roland Garros.
Je t'ai vu, Marie, se te déhancher sur ta chaise. Hein.
Je suis pas en état de me déhancher aujourd'hui.
Ouais, je pense pas. Exactement. Bon, Marie, on revient tout de même dans un instant. Hein. On va parler rugby, un sport que tu apprécies beaucoup. Évidemment, les enjeux de la 26e et dernière journée du top 14 avec nos envoyés spéciaux. Il y aura également la minute foot. Toutes les infos autour de l'équipe de France en cette veille de Croatie-France, deuxième match de Ligue des Nations pour nos Bleus. A tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Benoît Boutron. 19h31 sur RMC, le RMC Sport Show avec Marie Zévan GP jusqu'à 20h. Dans un quart d'heure, nouvel invité dans le RMC Sport Show, Pierre Roland, le coureur cycliste de BNB Hotel. Il s'est emparé du maillot à poids sur la première étape du Critérium du Dauphiné. Il viendra en parler avec nous. Le tour de nos directs. Et Bayonne va certainement retrouver le top 14 dans moins de 5 minutes désormais. Paul-Antoine Leclerc, Bayonne qui mène largement contre Mont-de-Marsan. Hein.
Ouais, c'est ça, Bayonne qui a les deux pieds en top 14, c'est bon, on peut le dire. Il reste 3 minutes 15 pour être précis, et l'aviron bayonnais qui mène 47-13 alors que Thomas Dolagaray vient d'inscrire un nouvel essai. Bayonne était vraiment trop fort dans ce match pour Mont-de-Marsan. Ouais. Mont-de-Marsan n'a pas existé, et donc Bayonne retrouvera le top 14 un an après l'avoir quitté. Il reste 3 minutes à jouer avant la transformation des bayonnais.
Ok, 47 donc à 13 pour Bayonne contre Mont-de-Marsan. Le foot également, ce barrage jaune Europe pour la Coupe du Monde au Qatar entre le Pays de Galles et l'Ukraine, Hamza Rahmani.
73 minutes de jeu, 1-0 pour le Pays de Galles face à l'Ukraine, on rappelle le buteur. officiellement contre son camp pour le capitaine ukrainien Yarmolenko suite à un coup franc signé Gareth Bale. Toujours 1-0 pour les Gallois. Grosse domination ukrainienne sur cette seconde période. On est à 71% même de possession pour les Ukrainiens qui n'arrivent pas pour l'instant à concrétiser. Il y a eu une frappe il y a quelques minutes de Malinovski qui est passé à côté du poteau gauche de Wayne Hennessy. Les premiers changements ont été effectués, mais toujours 1-0 pour le Pays de Galles.
Et puis on suit également la finale de Ligue des Champions féminine de handball. On rappelle que Metz termine 3e après sa victoire contre Esbjerg. La finale oppose Győr à Kristiansand, Valentin Jamin à Budapest.
Et c'est les Norvégiens de Kristiansand qui vont conserver leur couronne 33-30 face à Győr. Il reste une minute à jouer. Donc les Françaises de Győr, Estelle Zemiko, Laura Gloser ou Amandine Leno qui arrête sa carrière ce soir, championne olympique, championne du monde ou encore championne d'Europe avec les Bleus, ne remporteront pas ce titre européen que va conserver Kristiansand. 33-30, il reste 30 secondes.
RMC Sport Show.
La minute foot.
Et nous sommes en veille de match pour l'équipe de France de foot, deux jours après la défaite concédée contre le Danemark vendredi soir au Stade de France. C'était la première journée de Ligue des Nations. Deuxième match dans ces compétitions pour les Bleus qui défieront la Croatie à Split demain soir. Coup d'envoi 20h45 sur RMC. On retrouve Jeannot Rességuier, la voix du foot justement, qui est avec nous. Salut Jeannot.
Bonsoir Benoît, salut Maryse, bonsoir à tous.
En direct de Croatie, Jeannot évidemment.
Face à la mer Adriatique, c'est magnifique.
Ça c'est magnifique, j'imagine.
Ouais, magnifique.
Jeannot, c'est annoncé, il y aura du turnover demain chez les Bleus. Hein.
Oui, Didier Deschamps avait promis une rotation sur les quatre matchs de ce mois de juin. Et si la blessure au genou de Kylian Mbappé va le forcer à faire souffler l'attaquant parisien, eh bien, sans compter aussi le forfait de Varane, qui a été remplacé dans le groupe par Konaté, qui est arrivé à Split directement à la mi-journée. Le sélectionneur va aussi donner du temps de jeu à Mike Maignan, qui sera titulaire demain dans le but. Troisième sélection pour le joueur de l'AC Milan. Le brassard de capitaine au Parisien Kimpembe, ce sera le 11e capitaine de l'histoire de Didier Deschamps sélectionneur. Et puis laisser peut-être aussi au repos Benzema, Kanté, Koundé et Coman. Ah ouais. Qui ne se sont pas entraînés ce soir pour jouer la Croatie. Deschamps pourrait donc pousser jusqu'à 9 changements, 8 possible après l'opposition de ce soir lors de la séance à huis clos au Polyud Stadium, ce qui nous donnerait, si on reste sur un 3-4-1-2, je dis bien si on reste sur un 3-4-1-2, parce que dans ceux qui sont potentiellement des titulaires, on a plutôt joué à 4 derrière. Donc si on reste sur le 3-4-1-2, Maignan dans les buts, Pavard, Saliba, Kimpembe, Klos ou Coman, plutôt Klos, et Digne en piston, Tchouaméni avec Guendouzi au milieu de terrain, Griezmann derrière Nkunku et Ben Yedder. On en reparlera tout à l'heure dans l'after avec Loïc Tanzi, on est en train de vérifier ça, mais okay, peut-être possible retour à une défense à 4, bon, et avec peut-être des modifications justement au niveau des changements, mais aussi au niveau tactique.
Marie, c'était plutôt défense à 4 ou défense à 3 toi? Bon, merci Jeannot.
Toi, t'as décidé de m'embêter ce soir.
3 à 7, 4 moins 3, 1.
Voilà, exactement.
Je fais des maths.
Merci Jeannot pour toutes ces infos.
Salut Marie.
Demain, le match 20h45 sur RMC Croatie-France.
La deuxième période du RMC Sport Show.
Et c'est une grande soirée de rugby qui vous attend sur RMC. Les 7 matchs de la 26e et dernière journée du top 14 à suivre en direct et en intégralité. À 21h05, 12 clubs sur 14 sont concernés par les différents enjeux. Qualification directe pour les demi-finales, course au barrage, voire duel pour le maintien. Seul le Stade français et la section paloise, pourront jouer libérés. On accueille nos correspondants, Maryse, évidemment, à commencer par Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut Benoît, salut Maryse, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Wilfried.
On accueille également Edouard G. Salut Edouard.
Oh, salut Maryse.
Et Arnaud Valadon qui est là aussi. Salut Arnaud.
Salut Benoît. Salut Maryse.
Bon, on va rentrer dans le détail des enjeux de vos différentes rencontres. Je voudrais juste dire un mot avec Wilfried, qui est la voix du rugby sur RMC, sur ce qui se passe en ce moment dans le barrage d'accession de Pro D2. Quelle histoire pour Bayonne, Wilfried. Ouais. Bayonne, l'année dernière, justement dans cette dernière journée de saison régulière, a tout perdu. Ensuite, il y a eu ce barrage complètement dingue, perdu au tir au but contre Biarritz. C'est un an après. L'Aviron va retrouver le top 14, c'est assez dingue. Hein.
C'est très fort pour l'Aviron bayonnais de Yannick Bru, qui le manager qui quitte en plus les Basques à l'issue de la saison, qui sera remplacé par Grégory Pata. C'est vrai, il fallait le faire. Ils ont été deuxième de la saison régulière. C'est Mont-de-Marsan qui a dominé la saison, mais voilà, en rugby, c'est sur 80 minutes, c'est sur les finales. Et puis là, avec un tel score en plus, on approche les 50 points aujourd'hui. Mont-de-Marsan a mal à la tête. Ouais. Bayonne revient en top 14, Benoît. Mais Mont-de-Marsan en plus va jouer un barrage d'accession. Hein, le perdant de la finale contre le 13e, on en parlera un peu plus tard.
Exactement.
Il faudra se remettre Mont-de-Marsan de cette finale et de ses quasiment 50 points encaissés.
Wilfried, on valide le score final justement de Mont-de-Marsan-Bayonne avec Paul-Antoine Leclerc. Paul,
Oui, il y avait un essai là pour l'honneur des Montois qui viennent d'inscrire un essai qui va être transformé par le talonneur, le numéro 17, Carlos Muzio, pour son dernier match sous les couleurs montoises. Voilà, on est à 22 mètres et voilà, pour l'honneur. On rappelle le score donc 49 à 18 pour Bayonne qui retrouve le top 14. Les Bayonnais qui font la fête là, ça chante, des chants qui descendent de toutes les tribunes. Et Carlos Muzio qui va la passer, il passe sa transformation. Bravo. 49 à 20 pour Bayonne et c'est terminé. L'avion bayonnais monte en top 14 un an après l'avoir quitté. C'est la fête ici à Montpellier. Tous les joueurs, les supporters qui font la fête ici au GGL Stadium. Et les Montois qui repartent un peu la tête baissée, mais qui ils vont devoir se remobiliser parce qu'ils auront un match de barrage à jouer dès la semaine prochaine face à Perpignan ou face à Brive. On verra ça ce soir.
On va présenter ces enjeux. Merci Paul-Antoine Leclerc. Bonne soirée à toi. Bayonne retrouve le top 14. 19h38, le RMC Sport Show, je le disais. Les enjeux sont divers et variés. Il y a les qualifications directes pour les demi-finales, la course au barrage et puis la course au maintien. Pour les demi-finales, commençons par ce sujet-là. Ils sont trois pour deux places. Montpellier, Union Bordeaux-Bègles et Castres, trois équipes qui vont évoluer à l'extérieur ce soir. Le MHR à Clermont, l'UBB à Perpignan et le Castres Olympique à Pau. On précise juste qu'il existe une infime possibilité pour que La Rochelle se glisse directement en demi, mais il faudrait un sacré concours de circonstances. Le vrai enjeu de la soirée concerne cette phase finale, ces barrages, ce top 6. Et là, le principal enjeu de la soirée concerne évidemment ce match entre le Racing 92 et Toulon. C'est un vrai duel justement pour la montée à la Paris de la Défense Arena. Ce match qui sera commenté par Arnaud Valadon. Arnaud, la donne est claire, celui qui gagne sera qualifié. Voilà.
Ça c'est sûr, après on peut toujours rajouter quelques scénarios possibles, mais oui, si Toulon s'impose, ils seront dans le top 6, ce qui serait historique parce que jamais cette saison le RCT n'a été dans les 6 premiers. Ils font une remontée fantastique, les hommes de Franck Azéma. Ils ont pris 37 points sur les 10 dernières rencontres, personne ne fait mieux. La deuxième équipe, tiens, c'est le Racing 92 d'ailleurs, qui avait pris 32 points. Ils sont sur 6 victoires de suite en top 14. La dernière défaite remonte au 12 mars dernier contre le MHR 18 à 16 et jamais une équipe dans le top 14 ne s'est qualifiée sans avoir été dans le top 6 avant la dernière journée. Donc ça serait véritablement une énorme performance réalisée par les Toulonnais. Et en face on a le Racing qui peut se contenter d'un match nul, mais évidemment une victoire ferait les affaires pour les hommes de Laurent Travers. Le Racing qui depuis sa remontée en 2009 n'a jamais manqué des phases finales, donc il va forcément se passer un bel événement ce soir. Il y aura 20 000 personnes à la Paris La Défense Arena. Ce sera salle comble, toit fermé évidemment parce qu'on ne peut pas ouvrir le toit, donc ce sera bien en indoor sur ces conditions de jeu. Et puis il y aura aussi côté Racing l'envie de dire au revoir. Plus de 10 joueurs vont partir. On peut penser à Maxime Machelot qui a signé à l'Aviron Bayonnais, qui sera donc en top 14 la saison prochaine. Ou encore on peut passer à Teddy Thomas ou Teddy Bobigny qui, le talonneur du Racing, lui rejoindra Toulon. Voilà pour les petites histoires. En tout cas c'est véritablement un huitième de finale qui se joue pour ce dernier match de la saison régulière.
Alors on en a un autre de huitième de finale, une autre confrontation directe qui va opposer les deux champions d'Europe. Lyon, vainqueur de la Challenge Cup, qui reçoit La Rochelle, vainqueur de la Champions Cup. Edouard, on en parle avec toi, c'est toi qui vas commenter la rencontre. La donne est un peu plus compliquée. En fait, Lyon doit gagner avec bonus pour intégrer les phases finales. Tout autre résultat qualifierait les Rochelais finalement.
Oui, avec bonus offensif sans encaisser de bonus défensif. Donc oui. Pierre Mignoni en conférence de presse avant-hier expliquait qu'en gros l'exploit à faire c'est plus fort que ce qu'ils ont fait en finale face à Toulon. Donc c'est dire l'enjeu avec une équipe du Loup qui veut surtout pas regretter les un ou deux petits points manqués de ci de là, même si au total hein, ils ont eu 11 points de bonus, 6 offensifs, 5 défensifs dans la saison. Mais voilà, il y a eu un ou deux moments où les victoires elles arrivaient là et puis finalement dans les dernières minutes les Lyonnais ont perdu les matchs. Voilà, donc il y a un petit peu ce sentiment de pas passer à côté quelque chose de bien. Et vous allez me dire voilà, il y a eu la Coupe d'Europe la semaine dernière, c'est bon, les Lyonnais ont réussi leur saison. Ben non, oui ils ont réussi leur saison, mais non, ils ne veulent pas s'arrêter là, ils veulent avoir un petit peu plus, ils veulent aller un petit peu plus loin avec ce supplément d'âme que Pierre Mignoni qui fera ce soir son 215e deuxième match avec le Loup, lui qui est arrivé en août 2015 dans un club où il y avait tout à reconstruire. Le club était en Pro D2, il l'a fait monter, il l'a fait accéder au dernier carré deux fois, et là il aimerait bien pour sa dernière et bien que tout cela se termine dans le top 6, mais il va vraiment falloir faire quelque chose de grand. Et vu que c'est la Super Coupe d'Europe, Benoît, Maryse, ouais, c'est vrai, c'est et Wilfried, et bien les deux Coupes d'Europe, sachez-le, sont là. Ah, elles magnifique. Vont être présentées au public. En fait, il va y avoir un petit protocole avant le match. Il va y avoir Aldrit d'un côté et Niashvili de l'autre qui vont apporter chacun leur Coupe d'Europe. Alors, a priori, ils vont pas se tromper.
Il y en a une qui est plus belle que l'autre quand même. Hein.
Ouais.
On va pas dire laquelle, chacun se fera une raison, mon cher Rochelet.
Wilfried me disait en off, tu sais, la Challenge Cup, ça vaut pas grand chose. En fait.
Ouais, ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Donc, ouais. Les deux Coupes d'Europe, on verra. Hein, je les verrai. En tout cas, c'est la première Coupe d'Europe d'un club masculin, sportif, collectif à Lyon, donc de l'histoire. Donc, ça vaut la grande Coupe d'Europe.
Prends ça, Jean-Michel Aulas. Voilà. Hein?
Non, exactement. Wilfried, non, ça vaut pas le coup.
Bon bref. Si, bien sûr. Hein,
voilà. Donc les 20 000 personnes présentes
pour
ce soir.
De Yann Roubert, le président, juste au passage du Loup, tout ce qu'il fait depuis des années, c'est voilà, c'était très bien.
Voilà, donc si pour la dernière de la dernière de Pierre Mignoni, qui veut quand même lui avoir un 216e match, voire un 217e, voire un 218e, ça voudrait dire qu'ils vont loin. Mais il faut déjà passer l'obstacle de ce soir. Et là, l'obstacle est très 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 haut.
Bon, la mission est plus simple, Wilfried, pour ton Stade Toulousain qui reçoit Biarritz ce soir. Mission assez claire pour le champion de France en titre. Faut battre une équipe qui est déjà reléguée en Pro D2, et comme ça la qualif est assurée. Hein.
Oui, effectivement, le Stade Toulousain qui est en embuscade, car sixième au moment où on se parle, avant tous ces matchs, avec 66 points, égalité avec le Racing, à un point de La Rochelle. Mais le Stade Toulousain espère profiter de cette affiche déséquilibrée, on va dire. Hein, quand même, le BO condamné depuis un moment, hein, 14e et dernier, score moyen du BO à l'extérieur, 38-16 pour leurs adversaires. Donc le Stade Toulousain qui s'est remis un petit peu de sa demi-finale perdue en Champions Cup face au Leinster, qui a gagné à Brive et qui a eu surtout un week-end de repos la semaine dernière, ce qui était très important puisqu'il y a beaucoup une colonie d'internationaux là qui depuis le Grand Chelem a tiré un petit peu la langue avec tous les matchs enchaînés, donc ça leur a fait du bien. Et on espère avec sans manquer de respect au Biarritz Olympique, avec une victoire bonifiée ce soir, peut-être dépasser voir le Racing, voir La Rochelle qui joue à Lyon et
pour recevoir
accrocher un barrage à domicile, tout simplement. Ce serait un petit peu le coup du siècle quand on part avant les matchs et qu'ils sont 6e et donc c'est l'ambition du Stade Toulousain, un petit peu se relancer. Il y a une année un petit peu irrégulière pour le Stade Toulousain, mais ils veulent vraiment défendre leur titre, on rappelle. Okay. C'est le champion de France en titre.
Maryse, ça rend la soirée passionnante, hein. 12 clubs concernés par les enjeux, là on va se régaler.
Ça va être compliqué, il faut un cockpit d'avion avec 50 écrans pour tout suivre. Ah, oui. Ça va, j'ai calculé, j'ai un écran d'ordinateur, j'ai un téléphone, j'ai la télé. On doit pouvoir s'en sortir quand même. Puis bon, avec un bon multiplex, avec ce que j'allais dire, avec un bon multiplex radio, on est sûr au moins d'avoir dans les oreilles tous les résultats.
Évidemment. Merci Wilfried, merci Arnaud, merci Edouard, les coups d'envoi de ces matchs. À 21h05, à suivre sur RMC. Évidemment, 19h45, un point sur notre direct. Pays de Galles, Ukraine, match de qualif pour la Coupe du Monde, barrage zone Europe, évidemment, Hamza Rahmani.
Le corner gallois au second poteau ne donnera rien. 86 minutes de jeu, 1-0 toujours pour le Pays de Galles face à l'Ukraine, avec un dernier quart d'heure complètement fou. On n'est pas passé loin du 2-0 pour les Gallois, avec un poteau pour Brennan Johnson. Et puis derrière, les Ukrainiens qui se sont créés plusieurs situations complètement folles. Yarmolenko d'abord tout seul à 7 mètres qui est finalement contré, et puis peut-être l'arrêt le plus important de la carrière du gardien gallois, Wayne Hennessy, sur une tête quasiment à bout portant de Dovbyk. Arrêt exceptionnel, la main gauche ferme du gardien gallois qui était titulaire lors de l'Euro 2016, qui avait un peu perdu sa place de titulaire dans le but gallois, et c'est lui pour l'instant qui maintient en vie le Pays de Galles et qui envoie les Gallois en Coupe du Monde. Ce n'est pas terminé, Zinchenko, le centre rentré, Yarmolenko s'est finalement renvoyé, c'est le feu devant la surface galloise, la frappe lointaine captée par Hennessy. 87 minutes de jeu, 1-0 pour le Pays de Galles face à l'Ukraine.
Et la suite du RMC Sport Show, dans un instant, avec un invité, Pierre Roland, le coureur évidemment de l'équipe BNB Hotel KTM. À tout de suite.
RMC Sport Show.
Benoît Boutron. Le RMC Sport Show avec Maryse Evangp jusqu'à 20h. Sur RMC, je rappelle l'info sportive qui vient de tomber. L'Aviron Bayonnais promu en top 14. L'Aviron a battu le Stade Montois en finale de Pro D2. 49-20. L'Aviron donc retrouve le top 14 un an après sa descente. Le temps, le score entre le Pays de Galles et l'Ukraine. La qualif pour la Coupe du Monde, Hamza Rahmani.
90 minutes de jeu. 1-0 toujours pour le Pays de Galles face à l'Ukraine, à quelques minutes de retrouver la Coupe du Monde, ce qui n'était plus arrivé depuis 1958 pour les Gallois.
L'invité du RMC Sport Show.
Et répétition générale, hein, mois du Tour de France. Le Tour de France qui sera à suivre sur RMC du 1er au 24 juillet. Le Critérium du Dauphiné a démarré aujourd'hui en Ardèche. Victoire au sprint du champion de Belgique, Wout Van Aert, à Beauchastel. La journée a été marquée, Maryse, par l'échappée de plusieurs coureurs français. Pierre Roland a été désigné combatif du jour et surtout, il s'empare du maillot à poids de meilleur grimpeur. Il a franchi les 4 ascensions du jour en tête et il est en direct avec nous. Salut Pierre.
Bonjour, bonsoir à tous.
Merci d'être là. Drôle d'histoire que tu vis aujourd'hui, puisque 14 ans après, tu décroches de nouveau, enfin en tout cas, tu vas porter de nouveau le maillot de meilleur grimpeur sur le Critérium du Dauphiné. C'est assez dingue ça quand même.
Oui, c'est vrai que quand j'ai passé la première difficulté, une côte de deuxième catégorie, en tête, je me suis dit, bon, bah voilà, il ne m'aurait plus qu'à faire 2-3 sprints dans les prochaines ascensions et je vais être maillot à poids et un peu remonter le temps. Et je me suis dit, bah non, entre-temps, je ne l'ai pas reporté. Donc voilà, ce sera 14 ans plus tard. Donc c'était ça m'a rappelé plein de bons souvenirs durant toute la journée et du coup, ça a vraiment rendu ma journée très, très, très agréable.
Pierre, on est justement, il reste beaucoup d'étapes à parcourir, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de l'emmener au bout?
Pourquoi pas, on va voir. C'était, on va faire un peu au jour le jour. C'était pas du tout l'objectif de départ de ce Dauphiné. Voilà, l'objectif c'est d'essayer de remporter une étape avec moi ou l'un de mes équipiers. Mais voilà, maintenant il est sur mes épaules. J'ai marqué tous les points qu'il y avait à prendre aujourd'hui. Mathématiquement, je peux le garder quelques jours. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas 14 ans après, ce serait sympa de le ramener dimanche soir.
Être grimpeur quand on vient d'Orléans, c'est balèze. Hein. Je sais de quoi je parle. Ah bravo mon vieux.
Ouais, on me l'a souvent dit durant ma carrière.
Alors là, je sais pas comment tu fais, mais c'est un exploit. Pierre Roland qui est donc en direct avec nous. Parlons du parcours de ce Critérium du Dauphiné. Aucun répit pour vous la semaine qui arrive, hein, parce qu'il n'y a pas une journée calme. Il y aura même un contre-la-montre assez escarpé, des ascensions tous les jours. Là, c'est vraiment pour les costauds, ce Critérium du Dauphiné, Pierre Roland.
Voilà, c'est le Critérium du Dauphiné, un condensé de montagne. Même les étapes comme aujourd'hui qui arrivent au sprint, il y avait 2500 mètres de dénivelé. Demain, 2700, 2700 le jour prochain. Et voilà, il n'y aura que le chrono qui sera tout plat. Mais c'est vrai que voilà, c'est une épreuve qui est très montagneuse et ça va crescendo, la difficulté va crescendo, surtout voilà, jusqu'au week-end quoi, samedi, dimanche, à l'apothéose avec l'autre pareil, Galibier, etc.
Voilà, Maryse, ça fait peur quand on entend tout ça, des difficultés tous les jours. En tout cas, c'est la prépa idéale pour le Tour de France, Maryse.
Ouais, moi j'ai eu la chance. J'étais en vacances il y a 2 ans et j'ai eu la chance de voir passer une étape devant la maison que je louais. Je m'attendais pas du tout à ça parce que c'était super escarpé, puis des endroits où on se demandait comment en fait les vélos pouvaient passer parce que c'était non seulement des routes assez étroites, mais avec des fois des chicanes sur la route. J'avais été hallucinée de la vitesse à laquelle ça grimpait. Je me disais mais c'est pas possible. Je me disais même avec un vélo électrique, je suis pas sûre d'aller aussi vite.
Bah ouais, non, voilà. Je pense pas. Surtout s'ils sont bridés à 25.
Ouais, c'est ça. En plus, ouais, ça va plus vite qu'à 25. Kilomètre-heure, t'as raison, Pierre Roland, qui est donc notre invité. Pierre, il y a un grand favori sur ce Critérium du Dauphiné, c'est Primoz Roglic, une grosse équipe de la Jumbo Visma. T'es d'accord avec nous? C'est lui le grandissime favori pour remporter ce Critérium?
Ah oui, sur le papier, c'est le favori. Après, la route est longue, il a vraiment une équipe très forte. Ils peuvent gagner presque toutes les étapes, j'ai envie de dire, avec son équipe, avec ses équipiers. Mais voilà, le Critérium du Dauphiné, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a pas mal de choses à escalader, à descendre aussi. Et voilà, c'est sur le papier, c'est le favori, mais je pense qu'il y a plein de coureurs qui voudront avoir sa tête, forcément.
Parlons de toi, de tes ambitions personnelles. Je le disais, nous sommes à 4 semaines du départ du Tour de France, départ de Copenhague, je le rappelle d'ailleurs, cette saison. Quelles sont tes ambitions sur le Tour? Est-ce que tu vises quoi? Une victoire d'étape? Un maillot distinctif justement? Peut-être maillot à poids? Compliqué?
Sur le Tour ou sur le Dauphiné?
Sur le Tour.
Sur le Tour, voilà. Le rêve, ce serait de regagner une étape. Après, sur le Tour, tout est important, j'ai envie de dire. La moindre échappée, le moindre classement annexe, tout est décuplé, tout est multiplié. Donc voilà, il faudra être opportuniste. Et aller de l'avant dès que le profil s'y prête et dès que l'occasion se présente. Opportuniste à fond, viser les étapes et prendre un maximum de plaisir avec le retour du public qui fait aussi énormément plaisir.
Pierre Roland est donc notre invité ce soir dans le RMC Sport Show. Pierre, ton équipe BNB Hotel KTM est quelque peu en difficulté depuis le début de saison. C'est un peu galère pour vous depuis le début du mois de janvier. L'exaspération de ton manager qu'on connaît bien, Jérôme Pinault, a filtré d'ailleurs dans la presse. Comment tu expliques ce début de saison compliqué, toi, qui fait partie de l'équipe?
C'est compliqué à expliquer, mais il n'y a pas qu'une raison. Voilà, on a tous attrapé le Covid entre mi-janvier et début mars. Forcément, ça, quand on commence mal une saison, c'est difficile de redresser la barre, surtout avec toutes les courses qui se sont enchaînées. Donc, il a fallu présenter des effectifs affaiblis sur beaucoup d'épreuves. Et automatiquement, les effectifs affaiblis, divisés, ça donne des abandons, ça donne des coureurs qui manquent de rythme, etc. Et après, il y a eu un point zéro qui a été fait il y a quelques semaines. On est tous partis en stage, on s'est retrouvés, on s'est réentraîné un peu comme on le fait à l'habitude en décembre ou en janvier. Et pour repartir sur des bases saines. Et on voit depuis quelques semaines que les résultats sont bien meilleurs, que l'ensemble du groupe évolue dans la bonne direction. Mais bon. Et on peut pas mettre ça sur le dos d'un tel ou du. Voilà, c'est une accumulation de petites choses qui ont fait que, voilà, quand tu commences une saison sur le mauvais pied, c'est difficile de redresser là-bas.
Quand Jérôme Pinault veut racheter des contrats et pour les libérer, ses coureurs, il parlait pas de toi, j'imagine.
Je sais pas, j'aurais reçu un appel si il parlait de moi.
Non, mais... c'est bon. A priori non.
Après, voilà, moi quand Jérôme m'embauche, il sait très bien que ma période c'est mai, juin et juillet. Voilà, s'il comptait sur moi au mois de février, mars et avril, fallait embaucher un autre coureur que moi.
Bon, merci. Merci Pierre Roland d'avoir été avec nous. On te souhaite un bon critérium du Dauphiné. On espère que tu vas emmener ce maillot à poids jusqu'au bout. Tu le mérites, en tout cas. Et tu seras toujours le bienvenu sur RMC. Salut Pierre, à bientôt.
Merci, avec plaisir, à bientôt.
19h56 sur RMC, c'est historique. Le Pays de Galles va retrouver la Coupe du Monde, Hamza Rahmani.
Effectivement, c'est terminé au terme d'un rendez-vous très compliqué pour les Gallois. Tant il y a eu une domination ukrainienne, tant il y a eu des occasions ukrainiennes. La fin de match était suffocante, mais c'est bien le Pays de Galles qui arrache cette qualification pour la Coupe du Monde. 64 ans après, le Pays de Galles retrouve une place en Coupe du Monde. Seule et unique participation, c'était en 1958, grâce à un coup franc de Gareth Bale, dévié par le capitaine ukrainien Yarmolenko. Le Pays de Galles se qualifie pour la Coupe du Monde. C'est la fin du rêve ukrainien.
Exactement. Merci Hamza Rahmani. Bonne soirée à toi. Merci Maryse d'avoir été avec moi pendant cette heure. Repose-toi bien.
Bonne soirée, très très grosse soirée de sport.
Voilà.
À l'écoute de RMC, évidemment.
Et suis cette dernière journée de rugby, dernière journée de top 14 qui s'annonce passionnante.
C'est certain.
Ça sera dans l'After Live dans un instant avec Thibaut Gingrand. Vous allez vous régaler, tous les matchs commentés en direct en intégralité. Bonne soirée à tous sur RMC. Ciao.